9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Abdelkader Abiles.
Bonjour Samia.
Vous êtes l'invité de ce premier dimanche de l'année 2023. Je vous souhaite une belle et heureuse année, tout d'abord.
Parce merci, que vous aussi.
Il est encore temps de se dire ses voeux de bonheur et de prospérité. Abdelkader Abiles, vous êtes l'auteur du livre L'Envoyé de Bonaparte. Ce livre est la première partie. Il y a une seconde partie, mais c'est aussi un autre rendez-vous que nous prendrons. Vous présentez d'abord, vous êtes un Algérien issu de cette immigration algérienne qui est arrivée dans les années 50. Vous êtes originaire de Puteaux, on va le dire comme ça, parce que Puteaux va revenir tout le long dans beaucoup de pages du roman. Oui. C'est important pour vous, la ville de Puteaux, la ville de cette...
Mes racines.
Voilà, ce sont vos racines, c'est votre histoire. Vous êtes de cette culture aussi musicale, puisque votre père était joueur de casbah. Et cet imaginaire que vous développez dans l'écriture grâce à cette musique qui vous emporte, cette tradition orale qui vous emporte, vous l'accompagnez aussi d'une passion, c'est la danse, puisque vous êtes aussi très attaché à la fois à la musique et à la danse classique. Hein. Vous avez été de danseur classique au sein d'une compagnie de danse. Vous avez fait vraiment des grandes tournées internationales dans la danse. Donc tout ça vous invite à la fois la musique, la danse et l'histoire. L'histoire avec un grand H. Vous êtes attaché à l'histoire de France, la Révolution française, vous êtes attaché au 19e siècle et puis vous êtes attaché au présent puisque le présent vous anime aussi à la fois dans votre écriture et puis dans votre vie puisque on vit dans le présent finalement, mais on peut avoir un imaginaire débordant comme le vôtre et inviter, convoquer des histoires comme ça qui vont être au cœur de votre récit qui est L'Envoyé de Bonaparte, qui est le titre de cet ouvrage. Le livre commence justement par le présent qui est certes lointain puisqu'il a il a 60 ans, un peu plus de 60 ans, c'est le 17 octobre 61 qui a marqué aussi votre vie, fils d'immigré en région parisienne, et qui va marquer aussi, qui va ancrer le début du livre avec un personnage qui est important puisque je vais faire petite lecture de l'introduction, puis on va voir apparaître deux personnages qui vont être un peu le socle de cette première partie, avec d'autres personnages qui arriveront. Paris, le 17 octobre 61. Daniel Vernet couvre pour le journal Combat la manifestation des Nord-Africains du boulevard Saint-Michel. Pour ce type de reportage, il travaille seul. Il prend lui-même les photos. Autour de lui, les passants sont dérangés de voir ce cortège d'étrangers au cœur de Paris. Ils troublent l'ordre public et s'ils veulent construire leur pays, redonnons-leur cette terre d'Afrique. Ils proclament « L'Algérie vivra » d'une voix puissante et pleine. Et à les entendre, il est inéluctable que cela se réalise rapidement. L'opinion publique ne supporte plus la colonisation et par conséquent l'existence de peuples soumis. Ces individus ne sont pas faits pour subir le joug d'exploiteurs. Allez voir, c'est flagrant. D'ailleurs, ils se nomment les hommes libres. Dans leur groupe règne une cohésion exceptionnelle, elle est palpable, comme s'ils étaient tous unis, dans un seul flux d'énergie. Le rassemblement a été dispersé à coups de matraque, la préfecture a utilisé la manière forte, la violence, la tuerie. Je le rajoute parce que c'est ce qui s'est passé dans la réalité, chacune le sait aujourd'hui, puisque l'histoire et l'engagement de la reconnaissance du 17 octobre 61 a été commencé depuis bien longtemps. Donc tout au long de ce livre, L'Envoyé de Bonaparte, Abdelkader Abiles, vous allez convoquer, je l'ai dit, à la fois une recherche historique et le présent avec ces personnages. J'avais envie de vous demander pour introduire... Et avant de parler des personnages, comment vous avez travaillé sur ces recherches pour construire un livre avec du fantastique, de l'historique, pour donner une fidélité à des personnages historiques, parce que Bonaparte n'est pas encore convoqué là dans cette première partie. On le verra dans le deuxième livre, dans la deuxième partie. Mais en même temps, vous convoquez l'histoire, il y a des temps du livre qui sont très historiques. Comment avez-vous travaillé pour distinguer l'histoire et le réel?
Alors, tout d'abord, en premier lieu, je voulais saluer les auditeurs de Beurre FM et manifester tout le plaisir que j'ai d'être sur les ondes ici avec vous, Samia, tout d'abord. Et je vous remercie BRFM de m'avoir invité pour présenter mon ouvrage. Alors, donc, pour répondre précisément à votre question, déjà, en premier lieu, j'avais personnellement une masse d'informations historiques. Donc, après, poussé par des forces un peu dans des repas de famille, on me disait, mais faudrait que tu en parles, parce que c'est très intéressant, ça appelle des choses. Et donc, ça a été... Quelle idée, comment présenter ça? Parce que bon, c'est vrai qu'un livre d'histoire, puis moi je ne suis pas historien aussi à un moment donné. Ce que j'ai en moi, c'est l'artiste, c'est l'amoureux des belles histoires, c'est donc c'est de savoir raconter une histoire, donc de raconter une histoire qui uniquement quelque chose qui fasse rêver les gens, qui les divertisse tout simplement avec de l'action, des rebondissements, et utiliser le matériau que j'avais. Qui m'approprient, qui sont nos ancêtres, Samia, tout simplement, voilà, puisque je peux vous dire ça à vous aussi. Et donc voilà, pour répondre à votre question, si j'irai plus loin, ils sont passionnants, tous ces Nord-Africains. Alors on les appelle berbères, on les appelle, ils sont, je les aime, et ils avaient matériaux à faire une belle histoire. Voilà pour répondre à votre question.
Alors oui, alors justement, mais ces personnages, ça va de l'émir Belkader à Ibn Khaldoun, mais aussi des personnages dans l'histoire de France. Il fallait que vous aviez des matériaux, comme vous dites, mais il a fallu l'imbriquer dans les histoires des personnages, dans ce journaliste, dans cette danseuse, dont je parlerai un peu plus tard, qui est aussi un des personnages du livre, danseuse contemporaine, danseuse classique. Est-ce que il a bien fallu trouver la sensibilité, le passage pour que l'histoire avec un grand H se mêle avec les histoires des uns et des autres?
Alors donc, pour détailler, déjà, bon, tout est parti à partir d'une quête personnelle, déjà, puisque, bon, nous, les fils d'immigrés, nos parents ne nous ont pas transmis quelle est l'histoire, parce qu'eux-mêmes connaissaient leur histoire, en fait. Donc, et puis cette histoire n'est pas, il faut la chercher, elle n'est pas à la portée du premier venu, il faut faire preuve d'abnégation, de recherche. Alors, il existe beaucoup d'ouvrages, mais ils sont cachés, personne ne les utilise, puisque le constat est clair, c'est que, bon, l'histoire n'intéresse pas trop tous ces peuples-là, quoi, déjà, en fait. Et donc, dans un premier temps, pendant des années, sans penser à ce livre, j'ai ouvert tous les livres qui parlaient de l'Afrique du Nord, de l'Algérie. Donc j'ai pu découvrir déjà que, on a le premier historien de l'histoire moderne, on pourrait dire, puisque Ibn Khaldoun est le premier historien, et il date du bas Moyen Âge, à peu près le 14e siècle, qui s'est lancé dans un travail exhaustif de toute l'histoire de l'Afrique du Nord septentrionale, et c'est une masse d'informations déjà passionnantes sur l'histoire de ces peuples, de ces pays, de ces États. Et ensuite, plusieurs Charles-Angéry Julien, différents ouvrages aussi pour de nombreux universitaires algériens, marocains, tunisiens, puisque toutes ces universités ont produit des universitaires passionnants. J'ai pu rencontrer des gens très brillants au travers des livres, bien évidemment, en Afrique du Nord, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des gens passionnants, formés, venant d'Afrique du Nord aussi, avec beaucoup d'ouvrages, et je me suis retrouvé une masse d'informations assez intéressantes. J'avais ma motivation avant, puisque je lisais beaucoup de livres d'histoire à titre personnel, et donc c'est dans la continuité de l'histoire de France que je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique du Nord. Ensuite, ma passion des belles histoires, des romans historiques, m'a fait poser tout ce matériau et sorti.
Et puis comment s'est conjugué, voilà, justement,
et a germé cette histoire, et au passage, on a pu faire ressortir des éléments clés, des éléments historiques. Je dirais même que de cette mayonnaise, si vous me permettez l'expression, est ressorti des informations d'histoire. Je cite par exemple le début du livre. Je me suis rendu compte que mai 68 est l'enfant du
17 octobre.
Puisque en fait, quand on regarde, donc Daniel Vernet est un hommage à Daniel
Mermet de France, ouais.
le grand journaliste qui a témoigné de ce passage-là. Et lui-même a témoigné que c'est Nord-Africain, à l'époque on les appelait comme ça, cette détermination, cette force qu'on en connaît et que l'on retrouve tout le long de l'histoire depuis l'Antiquité, en fait, leur a donné la force de venir affronter l'ordre établi, puisque à l'époque, comme on a constaté que la France de Gaulle de cette époque-là était beaucoup plus proche de Salazar et de Franco plutôt que de Kennedy, plutôt dans l'image, qui lui-même aussi n'était pas complètement non réactionnaire, mais qui a fait preuve avec les mouvements des civiques, le mouvement de la lutte des Noirs aux États-Unis, a fait preuve d'un peu plus d'ouverture. Donc voilà pour répondre à votre question, et après, bien sûr, de fil en aiguille,
on construit des personnages.
Avec des étapes, puisque bon, ce type d'ouvrage nécessite un énorme travail quand même de construction. C'est un fruit de 10 ans pour construire un ouvrage comme ça. Les romans historiques, à chaque fois, sont beaucoup plus denses à construire.
Et puis là, il y en a deux. Il y en a deux parties. Plus, donc,
c'est pour ça que le public adore, puisque en même temps, ils apprennent des choses, quoi, en fait, puisque c'est construit, établi, tout en rêvant. En se divertissant, si vous me permettez l'expression.
Absolument. Parce que c'est vrai que ce Daniel Vernet,
oui,
ce journaliste, Vernet, si moi j'ai tout de suite pensé que c'était Daniel Mermet, mais ça c'est de la déformation professionnelle. Mais en même temps, on va le voir longtemps. Hein, il est longtemps, presque un personnage central. Il est important dans le livre aussi.
C'est une matrice, parce que
c'est lui qui va interroger, convoquer aussi l'histoire à chaque fois en posant des questions. J'ai lu très rapidement évidemment le début de la manifestation, mais cet homme va être un sauveur. Il va sauver un Algérien. Il va continuer cette solidarité qu'il a avec cet Algérien, et puis il va le conduire. Dans son cheminement, et puis il va aller là où il habite, il va aller voir d'autres gens qu'il connaît, et puis de fil en aiguille, les gens qu'il connaît, qui vont lui parler d'histoire, il y a tout ça. Ça part de lui, et puis il se construit des personnages.
Alors peut-être je rajouterais, il est sauveur, mais la fierté algérienne qu'il porte au bras, ce personnage-là est aussi influencé par ces néo-algériens. Oui. En fait, il est là, il est colle, il est parce qu'il veut chercher des choses qu'ils ont en eux. Oui. et dont il a besoin d'être.
Ça c'est le côté fantastique.
C'est le côté fantastique, mais lui-même aussi recherche avec le personnage d'Amar aussi ce cadre du FLN. Oui. Il est très attiré par lui. Il le questionne sur ses organisations, comment ils font pour résister, s'organiser. Et c'est là après qu'on peut recommander à l'origine de ces mouvements avec des personnages comme des anciens berbères qui sont arrivés. Donc on revient vers l'entre-deux-guerres où il y a eu des mouvements aussi d'anarchie où des berbères ont participé et où ils ont appris tous les clés de la lutte. Donc,
D'ailleurs, Amar, il en a marre de la curiosité de Daniel. Hein.
Mais après, ils sont très amis.
Après, ils deviennent amis.
Je voulais juste dire que Daniel aussi n'est pas qu'un sauveur aussi. Il apprend de ces néo-algériens, puisqu'ils ne sont pas encore algériens dans mon roman. Ça viendra après, puisqu'ils sont en inspiration de le devenir, d'aller vers la liberté. La liberté, voilà.
Alors on va poursuivre dans ces rencontres que traverse le livre justement. Cette il y a quelque chose de l'ordre d'une dans votre écriture, puisqu'on les évoque hein, ces personnages. Il y a une certaine fascination aussi de ces héros, des figures historiques. Je pense à l'émir Abdelkader, à Ibn Khaldoun, on en a parlé, mais vous avez quelque chose de cet ordre-là, parce que ils sont des figures importantes dans l'histoire ancienne, mais parce que pour vous, vous pensez qu'ils marquent aussi l'actualité, c'est des repères pour le contemporain.
Alors, je vais répondre à votre dernière question. Oui, alors bon, la première, oui, ils me fascinent. C'est pour ça que j'ai lu, que je suis attiré par eux. Je suis une sorte de groupie, si on peut dire un peu, pour utiliser un terme commun, l'émir Abdelkader. J'ai lu énormément de livres sur lui. Dieu merci, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur lui à l'époque et encore maintenant. Il y a encore d'autres ouvrages qui sortent encore. C'est un personnage d'une très grande richesse. Mais, j'avais oublié votre dernière question, pardon, excusez-moi.
Et puis sur l'importance que revêt justement ces personnages au niveau contemporain.
Oui, puisque finalement, quand on regarde Maquette, on a besoin, chaque individu, a besoin de répondre à des questions, et l'histoire nous permet d'y répondre, en fait. Puisque l'histoire est un éternel recommencement, en fait. Et avec l'histoire, quand je dis l'histoire, on peut faire des... Derrière aussi, il y a des études sociologiques. Et ces personnages sont centraux, sont très importants, puisque nous, hommes contemporains, hommes et femmes, bien sûr, excusez-moi, quand je dis hommes, c'est hommes et femmes contemporains, on a besoin de répondre à certaines questions. Et leur parcours... leur réponse, leur génie, les réponses qu'ils ont apportées à ce moment-là aux questions qu'on se pose maintenant, nous intéressent aussi. On permet de les adapter, permet de nous donner un peu l'esprit, la philosophie qui nous influencer, de regarder, de nous servir d'une base de départ pour une réflexion aussi. Il y a cet élément-là. Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui a créé un livre pour faire de la philosophie. Hein. Je suis là pour divertir le public. Néanmoins, on a des éléments historiques qui permettent de se dire « Ah ouais, tiens, il a fait ça, etc. » C'est étonnant.
L'envoyé de Bonaparte, c'est le titre de votre ouvrage. Notre invité, Abdelkader Habiles, nous en parle avec passion. On le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin dans vos chapitres Abdelkader Habiles. Il est l'auteur du livre L'envoyé de Bonaparte. C'est la première partie. C'est un livre qui est disponible sur la plateforme Amazon. Et nous avons parlé dans une première partie justement de ce roman historique et fantastique au travers différents personnages. Alors justement, pour poursuivre dans cette quête et dans cette recherche que vous faites, Abdelkader Habiles, ce roman historique et fantastique, on va le présenter comme ça. Donc, historique avec sa base historique, comme vous l'avez évoqué en première partie. Et puis, il faut être sérieux dans l'histoire quand on veut parler de l'émir Abdelkader ou quand on veut parler de Ibn Khaldoun, d'avoir les références qu'il faut, d'où ce travail très très complet et très long, hein, presque 10 ans, vous l'avez rappelé, pour construire ces livres, parce que il y a deux parties. Mais en même temps, il y a l'imaginaire aussi c'est fluide, un imaginaire. J'imagine que vous avez toute cette partie romanesque de rencontres des uns et des autres, des personnages. C'était plus facile à construire que cette recherche historique.
Oui, tout à fait.
C'est le mêlé qui était peut-être plus difficile à la construction.
C'est tout à fait d'établir au départ ce que le théâtre grec nous apprend, l'unité de lieu, l'unité de temps. L'unité d'action, pardon. Et donc après, quand on se lance dans des dialogues, la magie ressort et de la discussion ressort la création, en fait. Et oui, ça ressort assez rapidement pour moi. Oui, l'imaginaire me nourrit depuis longtemps.
La magie, la sorcellerie.
Alors, je tiens à préciser que c'est légèrement fantastique.
Hein. Oui, c'est ça.
On n'a pas de dragons ou des choses comme ça. Et oui, la magie m'a attiré puisque c'est un des éléments de la culture berbère, de la culture nord-africaine. Enfant, on a été entouré de superstitions, de tous ces éléments, de médecine, de potions qui existaient. Et après, on peut aller vers l'alchimie. Et dans l'histoire même de l'Afrique du Nord, c'est une terre d'alchimie, une terre de numérologie aussi, puisqu'on sait aussi, quand on écoutait les anciens, que c'était toujours certains 6 chiffres, notamment le 5. Le 5 qui protège, les 5 doigts de la main. Comme on appelle Khamsa, ou bien la main de Fatma. On sait que le 7 revient avec cette malédiction, le village a été brûlé 7 fois, etc. Il y a toujours le 2, le 1, et on a une terre qui, où le chiffre, d'ailleurs, certaines études historiques donnent que le chiffre est d'originaire d'Afrique du Nord, en fait, puisque avant l'arrivée de l'alphabet qui est venu par les Phéniciens, l'alphabet berbère était basé plus sur une notion de chiffres, en fait. Les travaux historiques nous basent là-dessus. Oui, donc voilà l'imaginaire.
Et dans cet imaginaire, vous l'avez y compris dans ses influences un peu sorcellerie ou en tout cas sensorielle, on va le dire comme ça. Oui. vos personnages sont emprunts aussi de ça. La danseuse, par exemple, pour arriver à vos personnages, vous lui faites aussi ce don. Elle a un certain don aussi.
Oui, parce que je vais plus loin. Moi, l'artiste qui est pour moi, alors mon grand professeur André Bertin, très grand professeur de danse, qu'il nous parlait, et quand on voyait des spectacles à l'opéra, ou bien qu'on voyait un danseur, et il disait l'expression, il y a les danseurs et le danseur. Alors on ne sait pas pourquoi. Pourtant, ils sont très bons techniquement, mais il y a quelqu'un qui ressort. Ou bien on peut voir ça avec le cinéma. Pourquoi Adjani? Pourquoi Depardieu? Ils ressortent comme ça. Et j'ai été plus loin, j'ai dit, c'est de la magie, tout simplement. Mmh. Voilà. Donc, ils ont un don en eux, comme un magnétiseur a un don. Eux, ils ont ce don-là. Donc, j'ai été plus loin. Donc, cette grande actrice, cette grande danseuse, cette jeune danseuse, Marie qui arrive, et à ce don-là en elle, elle attire, elle fait vibrer les choses, elle fait vibrer les œuvres, etc. Comme certains grands artistes. Moi, j'ai eu l'honneur et le plaisir de voir Patrick Dupont. C'était quelque chose sur scène. Le public était complètement électrisé. Kader Bellarbi parlait de lui. C'est une rock star, en fait. Et il rentrait et des gens plutôt assez réservés, public de l'opéra et assez froid d'ailleurs même, étaient complètement électrisés. C'était très impressionnant. Donc oui, il y a cette magie des danseurs, de cette danseuse, des artistes. Donc oui, j'ai été plus loin. Ils ont une magie pour moi.
En vous écoutant et en vous regardant, vos yeux pétillent parce que vous évoquez la danse, vous êtes un danseur, et au début de l'émission, il y a des pauses musicales, et vous souhaitiez qu'il y ait aussi qu'on réentende les morceaux de musique que vous aviez choisis. C'est important pour vous que notre discussion soit accompagnée de musique.
Oui, puisque déjà dans le livre, je fais part de ces musiques-là, puisque voilà. N'étant pas écrivain moi de formation au début, quand j'ai commencé, j'ai cherché à donner, puisqu'il faut donner quand même un esprit à une œuvre en fait. Donc dans mon œuvre, j'ai cherché à avoir un esprit, et pour moi l'esprit vient de la musique. Donc j'écoutais des morceaux, et par exemple l'événement des Nord-Africains. Là, cette nuit du 17 octobre, qui était une nuit noire, pluvieuse, est venue pour moi la musique d'Astor Piazzolla. Donc, cette musique très mélancolique, extrêmement mélancolique, pour ne pas dire triste. Et le tango d'Astor Piazzolla, en fait, ces grands langos qui partent. Voilà, donc oui, la musique.
La musique accompagne le livre et puis notre discussion justement. Et pour poursuivre dans ces rencontres, alors comment vous faites se rencontrer les uns et les autres dans le livre, les personnages, quel est le moteur un petit peu pour qu'ils se rencontrent, pour nous donner envie de
alors,
poursuivre
le moteur, alors. Moi, je suis attiré par le beau, j'aime la danse classique, donc cet événement du 17 octobre, je l'ai rendu sans déflorer, je vais déflorer un peu le début de l'histoire, quoi. Oui. Mais je l'ai rendu beau, puisque mon héros, en fin de compte, est ligoté, jeté dans la Seine, comme malheureusement 200...
Beaucoup
l'auront été, et il avait pris une potion magique, qui s'appelle, que j'ai nommé Alexir, en fait, qui lui a permis de ressortir, en fait. Et donc, c'est cette rencontre-là, c'est cette quête-là. Donc, Daniel, ce journaliste, voit ça, il est complètement éberlué.
Mais comment il s'en est fait pour s'en sortir?
Alors, c'est cette quête-là qui nous emmène à découvrir une confrérie de sorciers qui existe depuis la nuit des temps, et dont l'un, alors, serait l'envoyé de Bonaparte. Donc voilà un peu mon fil conducteur. Et après, comme je suis un homme, je dirais, bon, sans prétention, assez précis, je me suis collé au territoire que vous connaissez bien, Samia, c'est Puteaux, Neuilly, Paris, tous ces éléments, et puis après, me transporter en Afrique du Nord, dans la région de mes parents, pour aller coller le territoire, pour à chaque fois, puisque pour moi, la géographie, le territoire est important, puis après il y a les hommes, il y a la nature, etc. Voilà, donc je suis ce chemin-là, et c'est cette grande quête d'Alexir qui m'emmène...
Vers des personnages, vers le fantastique, toujours.
Des histoires, etc., des rencontres, et en même temps, bon, par exemple, Daniel, lui, il a cette quête-là, et aussi, il suit sa propre quête, cette quête de liberté, donc voilà, et Marie aussi suit sa quête, puisque... comme on l'a tous vu dans ma vie, je reparle de Marie aussi au passage, c'est donc Brahim, le héros du personnage, qui lui donne cette force. Et j'en parle puisque j'ai vu beaucoup de Français d'origine nord-africaine qui avaient cette force en eux, qui l'a transportée aux autres. Et on l'a tous vu, et de remettre ce talent, puisqu'elle était un petit peu dégonflée. Au début, elle n'avait pas confiance en elle. Alors c'est vrai qu'elle était tellement douée que ses gentils petites camarades de danse classique et gentils camarades, c'est un monde que j'ai connu, ont tendance à vous baisser un plus la tête. Parce
puis
que
même son professeur, hein, son
professeur.
Ouais, voulait pas l'emmener voir un autre professeur en disant non, elle est pas prête, etc.
Oui, mais elle est tout à fait. Mais après elle rencontre après, professeur, voilà, et le grand professeur.
Lui, reconnaît.
Il est complètement inhibilé par elle, et elle avait pas confiance en elle. Et c'est Brahim qui lui dit, mais non, tu es la meilleure, etc. Regarde ceci, etc. Qui la pousse, qui la gonfle et qui l'emmènera petit à petit. Mais ça, vous le découvrirez en lisant son histoire, puisque c'est toujours des success stories, c'est ce qui m'intéresse.
Voilà. Abdelkader Abiles est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche matin. Son livre, L'envoyé de Bonaparte, c'est la première partie. Ce roman, il est en vente sur la plateforme Amazon. On vous retrouve, Abdelkader Abiles, dans un instant pour la dernière partie de notre émission. On va pas tout dévoiler, mais on parlera encore avec plaisir.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Abdelkader Abiles. Il est l'auteur du livre L'envoyé de Bonaparte. Ce livre est la première partie, la seconde est un autre livre et c'est un autre rendez-vous avec vous, Abdelkader Abiles, pour connaître la suite. Mais pour l'instant, on s'arrête sur celui-là et on vient d'entendre un choix musical, parce que l'importance de la musique, pour vous, vous l'avez rappelé, est nécessaire à la fois dans votre livre et dans la magie de votre livre, justement, puisque les morceaux de musique sont pas au hasard. Vous nous rappelez ce qu'on vient d'entendre comme morceau, c'est le morceau qui est dans la deuxième partie.
Alors c'est un morceau d'un album issu de la musique du film Passion. Je vais commencer par ça. C'est le film Passion de Scorsese sur la dernière tentation du Christ. Et cette bande musicale a été faite par Peter Gabriel. Peter Gabriel a connu dans les années 90 une grande période où il faisait ce qu'on appelait de la world music, où il a mélangé des musiques traditionnelles avec de la musique, je dirais, pop, de la musique actuelle, très proche de sa musique. Alors Peter Gabriel, c'est l'ancien leader de Pink Floyd, comme tout le monde sait. Et de ce travail-là est sorti des musiques que je dirais qui sont géniales et qui m'ont beaucoup influencé, notamment avec le professeur, le chorégraphe, le grand maître Raza Ahmadi, directeur des ballets Jazz Art, qui était aussi chorégraphe principal au Ballet National Tunisien, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'a beaucoup formé et qui m'a fait découvrir toutes ces musiques. Et on utilisait beaucoup ces musiques-là pour faire des chorégraphies, puisque on aspirait aussi à faire de la danse moderne avec des touches aussi de culture. Alors on peut mélanger berbère, on utilise le terme qu'on veut. Donc et donc là, Stigmata est un morceau qui évoque toute la dimension scientifique puisqu'on parle de magie, mais les alchimistes étaient des magiciens aussi, et c'était aussi on sait que ce sont les ancêtres de la chimie, en fait, et pour qui décrit bien pour moi ce qu'étaient les savants berbères qu'on appelle arabo-andalous. Puisque l'Afrique du Nord est rattachée à la science de l'Afrique du Nord, puisque la majorité des scientifiques et des peuples dits musulmans d'Afrique du Nord d'Andalousie venaient d'Afrique du Nord, excusez-moi.
Dans votre livre, vous évoquez les origines du monde. Parlez-nous un peu de ça, c'est important, parce que il y a toute cette rencontre aussi avec des personnages il y a quelqu'un qui va parler de Saint-Augustin, qui va parler de... Voilà, il y a l'histoire qui revient, la grande histoire qui revient, une histoire du passé, pour parler du monde.
Donc, en fait, dans tout ce récit, puisque c'est un roman, ce qui nous intéresse, c'est le développement... C'est assez commun de prendre un personnage et de le faire grandir, en fait. C'est ce qu'on aime d'ailleurs dans une œuvre, en fin de compte. Et donc il y a certains personnages, donc il y a Farida qui est un personnage qui me plaît beaucoup, puisque c'est un personnage très romanesque qui est dans les livres, qui apporte un fil conducteur de mon œuvre. C'est le romantisme que j'aime au travers de la danse classique, le romantisme, et le romantisme qui est ultra présent dans la culture berbère, puisque on a compris je vais revenir sur votre question, je vous prie de m'excuser. L'esprit chevaleresque des chevaliers d'Andalousie a beaucoup été à l'origine du romantisme français, je précise, hein, le romantisme français. Je ne parle pas de romantisme d'outre-Rhin ou d'outre-Manche. Et donc, dans ce développement-là, elle cherche et elle découvre dans des livres l'origine pour les berbères du monde. Alors, c'est un mythe que j'ai inventé en partant des dieux berbères que l'on connaît. Le premier, c'est Anzar, le dieu de la pluie, et aussi Yéra. Yéra, la déesse mère africaine aussi. Voilà, donc, et après, la numérologie qui rentre dedans, et la zoophilie, la zoothéocratie, puisque c'est pas la zoophilie, je vous prie de m'excuser, tous les dieux qui sont des dieux animaux. Voilà.
Dans cette histoire du monde, parce que elle est racontée, donc je vais pas la lire. Elle est plusieurs pages très importantes, justement, où on voit justement c'est les traces des animaux, on voit toute cette histoire, etc. C'est un passage qui est très fort, parce qu'il ancre aussi cet intérêt que vous avez justement sur le fantastique. Donc là, on est sur quelques pages, là, on est dans le fantastique, alors que Farida nous a parlé. Farida, elle est terriblement contemporaine. C'est intéressant, justement, comment vous avez... J'insiste vraiment, parce que c'est une construction difficile. Hein. C'est comme un écrivain, quand il est dans l'écriture d'un roman, c'est un exercice très long. S'il fait une poésie, c'est un autre exercice de style. Là, c'est pareil. C'est le roman a deux styles. Il y a le style fantastique, une écriture fantastique, mais ça se complète.
Tout à fait. Alors, on est dans l'histoire contemporaine, puisqu'on est dans les années 60. Dans l'appartement d'André, justement, ouais. Je rends hommage à mon professeur qui est le danseur,
oui.
qui adore Farida. Alors c'est plutôt une relation, je dirais, amicale. Et elle raconte cette histoire-là. Mais cette histoire-là m'intéresse, puisque ça me permet de construire mes personnages venant d'Afrique du Nord, puisque quand je parle de numérologie et des animaux, les animaux font partie de la culture berbère. À chaque fois, on me parle, oui, diabolique comme le chacal,
le chien,
tout ça, voilà, oui, bien tout, sûr, tous oui. Ces éléments-là sont concrets. Ils construisent, ils font partie de nous-mêmes, en fait. Donc, il fallait les introduire. Et Farida, quelque part, elle est aussi. C'est une enfant, bien qu'elle lit énormément et qu'elle est un peu partie. D'ailleurs, elle se perd. D'ailleurs, Farida, un peu, elle se perd. Ibrahim la remet un peu sur la route. Elle se perd. Elle a ça en elle. Elle est attirée par cette évocation des animaux qui lui permettent de de se construire. Par exemple, je parle de l'opposition entre le cheval et l'âne. En fait, c'est quelque chose de concret dans la culture africaine qu'on a en nous, en fait. Hein, à ce moment-là, ça me permet de construire mes personnages, puisque pour les rendre beaux, il faut quand même les construire.
Alors, justement, dans cette construction, vous l'avez rappelé tout à l'heure, parce qu'on arrive presque à la fin de notre rencontre, et puis presque à la fin de la première partie aussi. Oui. On ne va pas tout dévoiler. Ça s'appelle l'envoyé de Bonaparte. Bonaparte n'est pas encore apparu dans cette première partie, finalement.
Bonaparte n'est pas encore apparu. Alors, l'envoyé de Bonaparte, ça me permet de remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à Bonaparte. Alors, on entend beaucoup parler de Bonaparte. Alors, bien évidemment, c'est un personnage complexe. Mais quand on prend l'histoire de Bonaparte, c'est tout de même Bonaparte qui nous a permis tous, et je parle au niveau mondial, de rentrer dans une nouvelle ère, de rentrer dans l'ère moderne, puisque on est sorti de l'ancien régime, on est sorti de la théocratie, et il a diffusé ça dans beaucoup de peuples. Alors, je ne connaissais pas les motivations de Bonaparte, mais il a compris que la méritocratie, c'est-à-dire que de prendre la meilleure personne, ou comme disent les Américains, the right man at the right place, ça lui permettait déjà de gagner des batailles, de construire, et ce principe-là, il l'a appliqué. Et Dieu merci, on est dans une société où, bah, écoutez, si on est adapté au poste ou au rôle que l'on a, si on est le meilleur, ben on a le job, comme on dit, et ça on le doit quelque part à Bonaparte, et donc je rends hommage à Bonaparte par rapport à ça. Alors vous rentrerez pour détailler tous ces éléments là et c'est bien évidemment, il a tiré ça des idéaux de la Révolution française. Il n'a rien
inventé. Alors on va terminer en musique, évidemment, puisque c'est votre choix aussi. Là, vous avez choisi un morceau pour clore notre émission dans cette et la dernière partie, finalement la dernière partie de l'ouvrage. C'est aussi un choix pas au hasard, bien sûr.
Alors donc là, le dernier morceau que j'ai choisi, c'est pour moi l'une des plus belles musiques qui soit. C'est d'un compositeur d'origine libanaise, qui est Rabbi Abou Khalil. C'est Windows, et c'est l'album Nafas. Donc, comme je vous ai dit, je m'intéresse au lieu, et cette musique-là me permet d'aller dans le désert,
voilà,
et de comprendre le désert et ce que ça a apporté au travers du conte italien, le conte Brumanti, qui a besoin de spiritualité, qui a besoin de se retrouver et qui va trouver dans le désert des réponses à ses questions. Et là aussi, c'est un génie de la mise en scène.
Là aussi, il y a le fantastique, je rends hommage au maître Visconti,
oui, le grand metteur en scène italien, qui avait été dans le désert aussi à cette époque-là. Et là, l'envoyé de Bonaparte, ce sorcier d'outre-tombe, commence à lui parler, à le diriger, et voilà, donc ces grands esprits, ces grands êtres arrivent à rentrer en communication les uns les autres, en fait.
Les grands esprits se rencontrent, comme
exactement,
on dit, ça veut dire,
voilà,
que ça va être
ça,
le début de la deuxième partie, et ça, c'est un autre rendez-vous, j'espère.
C'est un autre rendez-vous, oui.
Merci infiniment, Abdelkader Abilaz, d'être venu nous présenter l'envoyé de Bonaparte. Je rappelle que ce livre est disponible sur la plateforme Amazon. Merci d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM.
Merci.
On se retrouve prochainement pour la deuxième partie. Merci. On va pas trop tarder parce que faut que ça reste encore dans notre mémoire, cet envoyé de Bonaparte.
Merci, à très bientôt.
À très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de vos chapitres. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes et bonne semaine.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.